Avec le prisme rural cannais, j'ai aussi un prisme maritime, qui est plutôt celui de mon deuxième directeur, puisque vous allez le voir, on va parler d'histoire rurale, d'un littoral. L'idée, c'est de vous présenter une recherche en train de se faire et de vous montrer en fait quelle est ma démarche et comment s'est construit mon sujet, plus que des résultats, puisque je commence cette thèse à temps plein depuis septembre. Donc, vous voyez le titre, La propriété du mouvant, le gouvernement des ressources naturelles sur le littoral languedocien, avec une perspective de longue durée, puisqu'il s'agit d'aller du second XVIIe siècle au milieu XIXe siècle, voire au second XIXe siècle. Je voudrais commencer par quelques petites citations, donc celle d'un historien que vous connaissez sans doute, Carlo Ginzburg, un spécialiste de micro-histoire, celui qui a fondé la Microstoria, qui a écrit un article que je recommande à tout le monde, qui est disponible en ligne, qui s'appelle « Nomo et les leurs, une réflexion sur le métier de l'historien aujourd'hui ». Et je vais prendre le temps un peu de lire la citation, parce qu'elle éclaire aussi la construction de mon sujet. « Les historiens commencent par des questions en utilisant des termes qui sont inévitablement anachroniques. Le processus de recherche modifie les questions de départ sur la base des nouvelles sources, récupérant des réponses articulées dans le langage des acteurs et reliées aux catégories propres à leur société, qui est complètement différente de la nôtre. » Donc, cette citation, elle est importante pour moi parce que je suis pas venu, comme certains membres, en fait, du pôle rural à l'histoire, par exemple, par l'archivistique ou par la généalogie. Je suis vraiment venu, en fait, par une démarche de ce que l'école des annales appelait l'histoire problème. Et en fait, je dois concéder à cet auditoire interdisciplinaire, par exemple, que les lectures de géographie ont beaucoup influencé mon sujet. Et notamment, en fait, c'était des lectures de géographie des mers. Et c'était des questions, en fait, de définition des plaques continentales, des zones économiques exclusives, etc. Et j'étais assez fasciné par le côté arbitraire dans les normes juridiques qu'il y avait, en fait, dans les définitions des modes de propriété. Et en fait, qui disait arbitraire disait aussi historicité. Et en fait, c'est ça qui m'intéressait, c'était comment on répartit comme ça, un peu arbitrairement dans le temps, la propriété de choses qui, à la base, ne sont pas appropriées par l'humain. Donc, en fait, cet article de Carlo Ginzburg, il est beaucoup aussi sur les terminologies des historiens, donc c'est plutôt la deuxième citation. Et pour résumer, Carlo Ginzburg explique, en s'inspirant des travaux de Marc Bloch, que, en fait, il n'y a pas de solution simple pour les historiens qui doivent naviguer à la fois entre les termes dits indigènes, donc les termes qu'on trouve dans les sources, et en même temps des concepts anachroniques qui sont des termes contemporains. Et l'idée, c'est tout le temps, en fait, d'essayer d'être clair sur les définitions des notions qu'on emploie, en reprécisant à chaque fois, est-ce que ce sont des termes des sources ou est-ce que ce sont des concepts analytiques que moi je définis d'un point de vue du présent. Ça me semblait important en fait de repartir de ça et ensuite en fait, si vous me suivez bien, de façon logique, de définir justement les termes de mon sujet. Donc je parle de ces ressources naturelles et donc là on est clairement justement dans une définition qui est un concept analytique, puisque je ne trouve pas la notion de ressources naturelles dans mes sources d'Ancien Régime. C'est donc, je pars de cette définition volontairement anachronique, qui est une définition bien connue des géographes. Et donc, là encore, la géographie m'inspire beaucoup. Et je vous donne les définitions que donnent les géographes, qui sont intéressantes, parce qu'il me semble que les définitions des géographes peuvent permettre justement de faire des liens avec l'histoire. Donc, il y a notamment un géographe qui s'appelle Claude Raffestin, qui a écrit Pour une géographie du pouvoir. Et il définit les ressources naturelles comme ça. Il n'y a pas de ressources naturelles, il n'y a que des matières naturelles. Donc en fait, déjà, on entre dans une tension assez intéressante. Roger Brunet, qui est aussi bien connu des géographes, dit « Ce mot est un des plus ambigus de la géographie, car une ressource est toujours relative. Elle n'existe comme ressource que si elle est connue, révélée, et si l'on est encore en mesure de l'exploiter. Sinon, ce n'est pas encore une ressource. » Donc en fait, il me semble que dans ces définitions géographiques, desquelles je pars pour définir mon sujet, il y a l'idée que ce sont les pratiques, les usages d'une société, de même que les définitions de la valeur et de l'utilité, qui ont elles aussi une historicité, qui, dans un contexte social donné, vont transformer ce que Raffestin appelle des matières naturelles en ressources naturelles. Et donc, moi, vraiment, mon idée, c'est de prendre ça au sérieux, cette idée de matières naturelles qui sont construites en ressources naturelles, et justement de m'intéresser aux différents aspects historiques de la construction des matières naturelles en ressources naturelles. Donc l'idée, elle est intéressante, elle permet de faire des ponts entre la géographie et l'histoire. C'est l'idée qu'il n'y a pas de ressources sans besoin des sociétés, c'est une formule que disent souvent les géographes, et donc de partir de ça. Partant, un autre concept en fait, géographique sur lequel on peut naviguer à partir de celui de ressources naturelles, c'est celui de territoire, territorialité, puisqu'en fait, la notion de ressources naturelles, c'est un des modes de définir un territoire, de passer donc de l'espace au territoire. Et donc ça, c'est l'anthropologue Maurice Godelier qui l'exprime bien. On désigne par territoire une portion de la nature et donc de l'espace sur laquelle une société déterminée revendique et garantit à tout ou partie de ses membres des droits stables d'accès, de contrôle et d'usage portant sur tout ou partie des ressources qui s'y trouvent et qu'elle est désireuse et capable d'exploiter. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment les ressources naturelles, dans le temps, permettent de construire un territoire pour une société donnée, et c'est-à-dire l'appropriation de l'espace et des matières naturelles par une société ou par des groupes sociaux. Et donc c'est vraiment un sujet qui est à mi-chemin, qui part de concepts géographiques pour retrouver l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est que dans cette notion de territorialisation aussi, il y a en fait la définition d'une appropriation de l'espace, à la fois par les savoirs, et donc ce qui m'intéresse, c'est comment par les savoirs on construit une matière naturelle en ressources naturelles, et aussi les appropriations matérielles, donc par le droit, par la justice ou par les pratiques sociales. Un autre concept, pour finir sur cette notion de ressources naturelles que je trouve intéressant, c'est celui de mise en ressources de la nature, qui est très utilisé en fait maintenant par les historiens de l'environnement, donc un nouveau sous-champ disciplinaire d'histoire qui se développe. Donc je renvoie par exemple dans l'introduction à l'histoire environnementale, il y a tout un chapitre sur la mise en ressources de la nature. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette expression de mise en ressources de la nature, il y a l'insistance sur une dynamique, et donc on peut introduire, en plus de la notion de la dimension spatiale, la dimension temporelle. Le deuxième terme qu'il faut définir, c'est la notion de gouvernement des ressources naturelles que j'utilise dans la définition de mon sujet. Et en fait, je vais d'abord la définir par la négative, en parlant que mon sujet, donc, que j'appelle le gouvernement des ressources naturelles, j'aurais très bien pu l'appeler les usages des ressources naturelles. Et en fait, je ne suis pas parti de cette notion, parce que cette notion, justement, d'usage, pour le coup, elle se retrouve dans les sources, et elle a un sens tout à fait spécifique, et beaucoup trop spécifique par rapport à ce que je voulais utiliser, parce qu'on parle en fait en permanence dans les sources, notamment judiciaires d'ancien régime, d'usage, sauf que ça n'a pas exactement le même sens, en fait, que le sens contemporain. Et donc, je vous ai mis quelques définitions. Grosso modo, il y a un premier sens, en fait, qui est celui de coutume, qui évidemment m'intéresse dans mon sujet. Et le deuxième sens, c'est celui de propriété réelle, par opposition à ce qui est la propriété imminente. On reviendra sur cette distinction. Donc, en fait, c'était des sens beaucoup trop étroits. Et je ne voulais pas partir, en fait, de ça, parce que mon sujet est beaucoup plus vaste. Il est sur toutes les formes de propriété, et pas seulement sur ce que l'ancien régime peut appeler usage. Donc je passe vite sur ça parce que c'est pas le centre. J'insiste un peu plus sur la notion de gouvernement, qui est assez importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la notion de gouvernement, qui, comme vous le voyez dans ses définitions, je vous lis par exemple celle du dictionnaire de l'Académie française, de la première édition de 1794, c'est une notion qui vient de la marine. Ça veut dire diriger, manœuvrer une embarcation au moyen d'un gouvernail, mais très vite, dans les dictionnaires d'Ancien Régime, elle s'applique à l'État. Donc conduire un État et exercer le pouvoir politique. Et la notion de gouvernement ou de gouvernementalité, elle a été notamment très employée par Michel Foucault. Et en fait, c'est autour du rôle de l'État dans toutes les pratiques sociales. Et donc ça, j'ai repris en fait dans la définition de mon sujet ce terme, parce qu'un des enjeux de mon sujet, c'est de savoir en quoi l'affirmation de l'État royal, la centralisation étatique, a changé les usages et les pratiques autour des ressources naturelles dans la période qui nous intéresse. Donc en fait, Michel Foucault, il utilise cette notion pour dire que schématise, mais dans son cours « Sécurité, territoire, population », cours au Collège de France, 1977-1978, sa thèse, c'est que l'État royal, qui au XVIIe, XVIIIe siècle devient une sorte de Léviathan, par des dispositifs policiers, contrôle jusqu'au bas de la pyramide sociale tout le monde. Et donc l'idée, c'est que moi, même si je fais de l'histoire par le bas, ça aurait une influence, parce que ça veut dire que dans les pratiques sociales quotidiennes, il y aurait une influence de l'État par le biais de réglementation policière. Donc mon idée, c'était aussi d'interroger dans la longue durée cet enjeu. Est-ce que dans l'usage, dans les ressources naturelles, le rapport des sociétés aux ressources naturelles, il y a un changement avec cette évolution politique qui est l'affirmation de l'État royal? Donc je voulais prendre au sérieux ça, mais évidemment, ça me conduira pas à prendre la pensée de Michel Foucault comme un dogme, ça me conduira à la discuter, et notamment avec le concept de gouvernance qui permet justement de relativiser la place de l'État, qui est un concept donc, qui s'est développé depuis les années 80, pour dire que l'État n'est pas le seul acteur. Donc mon idée, ça va être justement, par ces notions de gouvernement, gouvernementalité, gouvernance, d'interroger le rôle de l'État sans prendre au mot ce dogme foucaldien, mais me demander comment l'État est un acteur parmi d'autres qui conduit à réguler l'usage et les rapports des sociétés aux ressources naturelles. Donc la notion de gouvernance me permettra de contrebalancer un peu toutes ces théories de Michel Foucault. Parce que je la lis, la notion de gouvernance fait son apparition à la fin des années 80 dans le champ des relations, dans le champ des relations internationales. L'appropriation de la notion de gouvernance par différents acteurs fait que le terme revêt aujourd'hui une multiple signification. Donc, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre l'idée contemporaine que les États ont un rôle de moins en moins central, notamment dans les relations internationales. Donc voilà la définition des termes centraux de mon sujet. Donc, avant d'évoquer le cadre chronologique, en fait, les tensions problématiques qui guident mon intérêt pour mon sujet, donc c'est en fait deux points qui sont la tension entre l'appropriation locale des ressources naturelles, qui repose notamment sur des usages coutumiers qui sont hérités de l'époque médiévale, et l'ingérence croissante de l'État dans ces usages par le biais de dispositifs policiers. C'est aussi donc la tension entre les constructions de territoires hérités du Moyen-Âge et la nouvelle mise en ressources de l'État qui est imposée verticalement par l'État moderne, notamment dans le cadre du développement de l'économie politique, donc le développement de, vous savez, vous connaissez ça, mercantilisme, physiocratie, donc les nouvelles pensées de l'environnement. Il y a un spécialiste de la Provence qui avait déjà publié dans Histoire et Société Rurale, Georges Picard, qui parlait d'un espace absorbé par l'économique pour dire qu'il y avait de plus en plus une vision économique imposée par le pouvoir royal. Donc c'est aussi reprendre un peu cette étude. Le cadre chronologique, donc, de ma thèse. Ma thèse, elle commence donc dans ce qu'on peut appeler la seconde modernité, qui est en fait justement généralement considérée comme une période de triomphe de l'État dit moderne, qui parachèverait un processus séculaire qui aurait été engagé au bas Moyen-Âge. Donc ça, en fait, il y a eu beaucoup de travaux, notamment de médiévistes, comme quelqu'un, je vous mets le nom, Jean-Philippe Guenet, qui, dans les années 80-90, a porté des projets qui s'appelaient « La jeunesse de l'État moderne ». Donc l'idée, c'est de prendre au sérieux cette vision de la première modernité comme quelque chose qui serait un point culminant de la construction étatique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans la définition de l'État moderne, les médiévistes, ils prenaient des critères qui sont assez pertinents et qui marchent très bien, en fait, dans les travaux des modernistes. Jean-Philippe Genet, il disait, voilà, l'État repose notamment sur quatre piliers, donc je vais vous les citer. Premier pilier, le monopole de la justice. Deuxième pilier, la fiscalité publique acceptée, notamment au nom de la guerre. Troisième pilier, la lutte contre des pouvoirs concurrents à vaste échelle territoriale. Et quatrième pilier, disait l'État garant comme le droit, comme garant du droit des individus, en particulier le droit de propriété. Et donc, évidemment, c'est une thèse qui m'intéresse de savoir est-ce que l'État est vraiment le garant de la propriété des ressources naturelles dans la période qui nous intéresse. Cette expression d'État moderne, elle peut être mise en relation avec, en fait, des expressions que vont utiliser les historiens modernistes. Et dans les travaux d'histoire moderne, notamment d'histoire politique, on va plutôt parler d'État militaro-fiscal, notamment à la suite de travaux, en fait, d'historiens britanniques. Il y a un historien qui s'appelle John Brewer qui parle notamment d'État militaro-fiscal. Concrètement, à quoi ça correspond, en fait, ce triomphe un peu de l'État dit moderne? Eh bien, ça correspond aux grandes ordonnances Louis XIVienne, qui sont un peu un point de départ de ma thèse et qui sont centrales, en fait, en matière de gestion des ressources naturelles. Donc je vous les reprise, elles sont bien connues des modernistes, mais on peut repréciser un peu les enjeux en matière de ressources naturelles. Il y a tout d'abord les ordonnances civiles et criminelles, qui en fait encadrent les procédures judiciaires et qui en fait sont une forme de contrôle croissant des États, de l'État royal, sur les juridictions diverses, seigneuriales et ecclésiastiques. Donc ça c'est important notamment parce qu'en fait la régulation des usages des ressources naturelles se faisait beaucoup par la justice. Donc par le contrôle des procédures, l'État contrôle de plus en plus les procédures judiciaires sur les ressources naturelles. La deuxième grande ordonnance, c'est l'ordonnance des eaux et forêts, sur laquelle je reviendrai dans la présentation, qui évidemment porte totalement sur des questions de ressources naturelles, puisque c'est la volonté de l'État royal d'améliorer son contrôle sur les territoires forestiers et sur les cours d'eau, notamment les cours d'eau navigables. Et on a une troisième ordonnance, la grande ordonnance de la marine, qui là concerne pleinement aussi mon territoire littoral d'étude, volonté de l'État d'améliorer le contrôle sur les littoraux, qui en fait traditionnellement sont plutôt des lieux de grandes seigneuries et de territoires communaux. Et donc Gérard Le Bouédec, un historien de l'Orient, il parle même de système de contrôle et d'acculturation des populations littorales. C'est un point de départ important. L'autre point de départ de cette première modernité, c'est une évolution des savoirs avec en fait l'intégration croissante des savoirs à l'administration, donc l'Académie royale des sciences, etc. Pas peine de revenir dessus, mais aussi l'essor de l'économie politique, donc avec notamment dans ce cadre de pensée une nouvelle vision du territoire, de l'espace et des ressources naturelles. Et Arnaud Skornicki, qui a travaillé sur ça, il parle de l'émergence d'une science du commerce. Donc ça, c'est mon point de départ. Le but de ma thèse, c'est de partir justement de ce point de départ et d'aller jusqu'au milieu du 19e siècle pour prendre en fait sur la longue durée au sérieux des mutations, qui sont les mutations structurelles provoquées par la Révolution et en fait qui vont complètement changer le cadre institutionnel de régulation des usages des ressources naturelles. Donc c'est là encore des événements bien connus, mais qui en fait, dans le temps long, ont des répercussions très importantes. Et mon idée, c'est d'interroger à la fois quelles sont les continuités et quelles sont les discontinuités provoquées aussi par cette césure par rapport à une tendance longue qui s'était mise en place dans la seconde modernité. Donc évidemment, ça va être la suppression des structures seigneuriales par la nuit du 4 août. Ça va être aussi la suppression de toutes les formes associatives. J'en reparlerai parce que j'ai des formes d'associations de propriétaires. Ça va être tout ce qui concerne la vente de biens communaux ou la vente des biens nationaux. Et plus généralement, ça va être en fait une grande transition, ce qu'un historien qui s'appelle Rafe Blaufarb, un historien américain, appelle une « great demarcation », donc une grande bifurcation. Il vient de sortir un ouvrage qui vient d'être traduit en français, qui s'appelle « L'invention de la propriété privée, une autre histoire de la Révolution ». Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que sa grande thèse, c'est de dire que la Révolution redéfinit la notion de propriété et qu'on passe en fait de formes de propriété qu'on peut dire dissociées, c'est-à-dire où vous aviez des droits sur des choses et par exemple, sur un même espace, plusieurs personnes pouvaient avoir des droits, à la notion de propriété absolue. C'est-à-dire, si vous êtes propriétaire, après la Révolution, au nom de l'idéologie révolutionnaire, vous êtes propriétaire de tout, vous faites ce que vous voulez sur votre propriété. Donc mon idée, c'est vraiment de prendre au sérieux cette grande démarcation. Et en fait, quand je regarde des archives du début 19e, ce qui est intéressant, c'est que vous avez en fait des enquêtes sur tout ce qui s'est passé sous l'Ancien Régime, très tôt, dès les premières décennies du 19e siècle. Et parce qu'on enquête en fait sur ce qui s'est passé sous l'Ancien Régime, avec l'idée d'en finir avec ce qu'on voit comme du féodalisme, et de convertir ce qui est vu comme des vieux régimes archaïques de propriété en régime de propriété privée absolue. Et donc il y a plein de choses sur les ressources naturelles, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même partir en fait d'enquêtes historiques qui sont faites au début du 19e siècle, un peu de manière régressive, c'est-à-dire parfois les gens ont fait votre travail, il y a des agents de préfecture au début du 19e, ils se sont coltinés toutes les archives notariales, toutes les archives seigneuriales, pour faire des enquêtes en termes de droit, c'est-à-dire des enquêtes historiques, mais dans une perspective judiciaire. Le cadre chronologique, puisque l'idée, c'est de partir de cette grosse problématique et de prendre un terrain d'étude qui est un peu mon laboratoire spatial, si vous voulez, pour interroger ces questions. Et donc, c'est le littoral languedocien. Donc, une carte très générale du royaume de France en 1789 pour vous montrer où ça se trouve. Donc, c'est le littoral méditerranéen du royaume de France. Donc, un peu au centre, un peu à l'est, si vous voulez, voilà. Donc, qui se trouve dans un pays d'État qui allait de Montpellier à Toulouse. Donc, quand même, un pays d'État qui était assez important d'un point de vue fiscal. Une deuxième carte à une échelle un peu plus focalisée, donc qui vous montre qu'en fait, ce qui m'intéresse sur le littoral languedocien, c'est que c'est un espèce hybride qui est entre terre et mer, constitué notamment de lagunes. Parce qu'en fait, on est sur un littoral extrêmement arrosé, avec un réseau hydrographique intense qui vient en fait des premiers contreforts du Massif central. Donc vous avez les Cévennes, en fait, à une soixantaine de kilomètres du littoral. Et donc, justement, ce caractère hybride, en fait, aussi est d'autant plus intéressant sur mon sujet parce qu'on est sur un espace qui est très mouvant, que je qualifie de lagunaire, mais qui est donc à mi-chemin de la terre et de l'eau, qui est très mouvant selon les saisons et très mouvant dans le temps, et donc qui pose en plus une problématique environnementale assez intéressante. Donc, grosso modo, en fait, cette zone lagunaire, elle va, si vous voulez, du Roussillon et donc d'un littoral qui est plutôt rocheux et qui est en fait les Pyrénées qui se jettent dans la mer, à l'estuaire du Rhône. Donc vous voyez ici la petite Camargue, donc l'estuaire du Rhône est exclu de mon analyse. Je me focalise plus précisément en fait sur une portion littorale qui se trouve pour l'instant vers Montpellier, donc qui est cette portion que vous voyez sur une carte donc, du milieu du XVIIIe siècle. Et une portion là, donc en fait, c'est assez intéressant parce que d'un point de vue environnemental, c'était une lagune unique. Et si vous voulez, en fait, sur tout le littoral que je vous montrais, Grosso modo, au Moyen-Âge, vous pouvez naviguer de l'estuaire du Rhône aux Pyrénées à l'abri en fait, d'un lido, c'est-à-dire d'un cordon dunaire, dans les étangs. Et en fait, vous avez une évolution environnementale qui est séculaire, qui est une sédimentation par les apports alluvionnaires du Rhône. Et donc, vous avez une tendance à l'envasement. Donc, là, en fait, ce qui vous est montré, comme, par exemple, sur cette espèce comme une lagune unique, c'est très exagéré. Dans les faits, vous ne pouvez pas, par exemple, naviguer là, de l'étang de l'Or, ce qui est appelé étang de Moggio, à l'étang de Thau, donc, que vous voyez ici à l'ouest, qui se trouve actuellement du côté de Sète. Et en fait, c'est très fragmenté. Vous avez des îlots, vous avez des alluvions un peu partout. Ce n'est pas du tout un territoire unifié, comme vous pouvez le voir ici. La carte de Cassini, pour vous montrer en fait, l'exemplaire de Marie-Antoinette, pour vous montrer qu'on est sur un littoral qui est assez difficile à déterminer, puisque notamment toutes les cartographes en fait, ont du mal à caractériser cet espace. Parce que si vous voyez par exemple des zones d'étang qui sont assez nettement délimitées, vous avez en fait, des zones notamment de marécages. Je ne sais pas si... ce que vous voyez en fait, sur les franges bordurières des étangs, ce sont des zones marécageuses qui ont en fait, des contours très instables et qui se développent notamment dans les étangs. Et les cartographes ont beaucoup de mal à délimiter ça. Vous voyez aussi en fait, un delta, qui est le delta du Lez autour de Latsk, sur lequel je m'intéresse particulièrement. Et vous voyez une espèce de damier, mosaïque en damier. Et là encore, on est sur une espèce de zone humide, ce qu'on appelle zone humide. Donc en fait, tout ça... les cartographes essaient souvent de le simplifier. Là, vous voyez par exemple une surface d'étang bien plane, etc. Mais ça ne correspond pas du tout aux réalités qui se retrouvent dans les pratiques et aux réalités environnementales de ce territoire. Juste une introduction rapide dans ce territoire. En fait, là, c'est un récit de voyage de John Locke, donc le philosophe, en fait, qui, à la fin du XVIIe siècle, se rend à Montpellier, où il reste 3-4 ans. Et donc, il arrive en fait à Montpellier le premier jour, le 4 janvier, et dès le 5 janvier, parce qu'il a encore les chevaux avec lesquels il va voyager, il va au bord de la mer et il décrit un peu en fait ce territoire. Donc, je vous le dis rapidement, puisque nous avions des chevaux, nous sommes allés au bord de la mer, au sud de la ville et à un lieu de celle-ci. Une plage tout en longueur sépare l'étang de la Méditerranée elle-même. Dans cet étang, il y a beaucoup d'oiseaux. Donc globalement, pour finir sur la présentation de terrain et avant de vous annoncer mon plan, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce littoral a eu une très mauvaise réputation, notamment dans l'historiographie, justement parce qu'il était hybride et mouvant. Et en fait, on l'a décrit comme un mouroir, notamment parce qu'évidemment, il y avait de la malaria, il y avait des fièvres assez épidémiques. Et il a été décrit en fait comme inoccupé, inhabité, notamment sous l'Ancien Régime, par les historiens du 19e. Et on en avait une vision très dépréciative, comme en fait de toutes les zones humides, jusqu'à très récemment, et en fait, sous l'Ancien Régime, le combat contre les zones humides est un combat assez important. Donc il a eu une très mauvaise réputation, et c'était l'idée d'un territoire qui ne servait à rien, qui était stérile, improductif, qui était notamment reprise par le pouvoir central. Et l'idée de mon étude, c'est justement notamment de remettre en cause cette vision par une étude des pratiques par le bas, en les confrontant aux discours centraux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, cette vision... elle avait une dimension environnementale, parce que quand vous lisez des médiévistes ou quand vous lisez de l'histoire antique, vous aviez des ports languedociens qui étaient très actifs, à l'époque médiévale, vous avez des villes comme Montpellier, Narbonne ou Béziers, en fait, qui sont en contact avec le Levant. Et après, en fait, quand vous relisiez des historiens sur l'Ancien Régime, vous aviez comme ça une incompréhension, parce qu'on passait d'une zone marchande à une zone qui était abandonnée, qui était pourrie, qui était stérile. Voilà, là, par exemple, vous avez un guide en fait, de touristique qui reprend justement cette historiographie du 19e. Les côtes basses, lignes de sable, bordées de lagunes et de terres immergées, ont une puissance de solitude qui les isole de leur arrière-pays mieux que ne le feraient des montagnes. Ces rivages du Languedoc sont comme une zone interdite, d'où l'on ne peut partir vers le large ni prendre terre. Partout pour aller de la terre vers la mer, de Psalmodie jusqu'au Gros du Roi, comme des étangs de Montpellier à Maglone, ils font plonger dans un espace magique. On se sent pris par un univers sédimentaire fait de sable et d'eau, de vase et de sel. Donc mon idée, en fait, c'est vous allez voir que cet espace qu'on décrit comme désert, sous l'Ancien Régime, il n'était pas si abandonné que ça. Donc pour résumer, avant le plan, mes axes problématiques, ce sont les manières de dire et de faire la preuve de la propriété des ressources naturelles dans un espace qui est mouvant, les modes de valorisation de ces ressources naturelles, les régulations des usages, les savoirs et l'économie politique autour de la valorisation des ressources des lagunes et des marécages, et aussi la manière dont des groupes sociaux et des conflits peuvent se cristalliser autour des ressources naturelles. Je ferai une présentation pour un peu déroger à la structure académique en trois temps, en deux temps. Tout d'abord, en fait, je vous montrerai quelles sont, sous l'Ancien Régime, toutes les institutions et tous les acteurs qui paradoxalement évoque et s'intéresse à cet espace qui nous est décrit comme un désert et comme un mouroir. Donc en fait, en vous représentant toutes les institutions qui produisent en fait mes archives, qui évoquent cet espace. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai autour de quelques ressources naturelles, justement comment ces différents acteurs ont des discours des fois divergents et comment ils interviennent dans la définition de la propriété de ces ressources naturelles. Donc pour des raisons en fait liées à l'avancement de la thèse, pour l'instant j'évoquerai que la partie ancien régime de ma thèse. Donc une des premières institutions qui s'intéresse en fait aux ressources naturelles de mon territoire d'étude, ce sont les seigneuries. Et en fait, moi je viens à ce sujet par la question des archives seigneuriales, qui en fait s'intéressait beaucoup aux ressources naturelles et qui évoquent étroitement dans leur documentation les ressources donc de cet espace mouvant. Donc juste pour quelques rappels, la seigneurie, donc en fait, c'était une délégation de puissance publique sur un espace donné. Et pour cette raison, en fait, les seigneurs et donc leurs représentants, les agents seigneuriaux, avaient des pouvoirs de justice et de police surtout sur certains territoires. Et en fait, c'est notamment la question en fait de ces compétences de police qui m'intéresse pour la question des ressources naturelles. Donc en fait, les historiens qui ont travaillé notamment sur les seigneuries dans des perspectives un peu plus totalisantes, ils ont bien évoqué cet aspect. Par exemple, Jean Gallet, qui travaillait sur des seigneuries en Bretagne, il disait que la seigneurie, c'était un régime juridique encadrant la propriété. Donc évidemment, on est dans le cadre d'une structure qui était complètement centrale dans mon sujet. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que les seigneuries, dans un pays qui est méridional, qui est un pays de droit, sont centrales, en fait, dès les premiers temps, dans les questions de ressources naturelles. Parce qu'en fait, dès les 12e et 13e siècles, les premiers actes seigneuriaux qu'on a parfois, ce sont des concessions, en fait, de ressources naturelles à des communautés. Et donc, même la seigneurie, dans son rapport aux communautés d'habitants, généralement, la première manifestation documentaire qu'on en a, ce sont, en fait, des autorisations seigneuriales sur des ressources naturelles. Et notamment, en fait, sur le littoral et tous ces étangs côtiers que je vous ai montrés, on a, dès l'époque médiévale, de nombreuses concessions de portions d'étangs pour des ressources de pêche, pour des ressources de jonc, ou encore pour des ressources en eau. Donc, dès l'époque médiévale, les ressources naturelles, en fait, sont centrales dans la définition même d'une seigneurie sur le littoral languedocien. Ce sont les premiers actes décrits en termes de droit romain. La seigneurie, elle a beaucoup été étudiée, en fait, dans une dimension quantitative, notamment en fait pour évaluer le poids en fait de la domination seigneuriale, et ça va pas du tout être ma perspective. L'idée, c'est plutôt d'étudier la seigneurie comme un acteur en fait qui intervenait dans les rapports sociaux. Alors un point important en fait pour le début de ma période sur les seigneuries en Languedoc, c'est que paradoxalement, on pourrait se dire la seconde modernité, c'est un moment d'affaiblissement des structures seigneuriales. Eh bien, pas du tout. Et parce que notamment, en fait, en Languedoc, vous avez ce que Didier Catarina appelle la grande braderie du domaine royal. Et en fait, beaucoup de territoires qui avaient été rattachés au domaine royal depuis le Moyen-Âge, dans le cadre de l'endettement de l'État, vont être revendus et reconcédés, en fait, à des seigneurs, à des particuliers. Et donc là, vous avez une carte, en fait, qui vous montre notamment que le domaine royal en 1670 en Languedoc, il concerne 645 communautés. Alors qu'en 1700, il ne concerne plus que 214. Et notamment sur les littoraux, sur le littoral, sur mon territoire d'études, vous avez des seigneuries qui, en plein règne de Louis XIV, sont créées, avec en fait des gens qui sont anoblis par la création de cette seigneurie. Je vous en donne un exemple, qui est en fait une seigneurie sur laquelle je travaille beaucoup. C'est le marquisat de Solas, donc une seigneurie en fait au sud de Montpellier, qui est créée par donc inféodation du domaine royal à en fait un officier. Donc quelqu'un qui est issu de la noblesse de robe, donc qui est dans une cour souveraine, la Cour des comptes et des finances de Montpellier, et en fait qui va, dans les années 1660, en échange d'un contrat de concession, c'est-à-dire en gros, il promet d'aménager et de canaliser une rivière, et en échange, on aliène le domaine royal et on lui crée une seigneurie avec tous les droits de justice et police afférents. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on va aliéner deux anciennes seigneuries médiévales, donc notamment la baronnie de Latte, sur laquelle je vais revenir, et même une seigneurie urbaine, la rectorie de Montpellier. et on va créer un vrai fief, au sens médiéval du terme, en plein grand siècle. Donc pour vous montrer quand même, c'est une seigneurie assez importante. Ça, je le tire en fait d'un quelqu'un qui a fait à l'échelle de tout le Languedoc une géographie judiciaire, donc il a cartographié toutes les seigneuries du Languedoc. Donc en fait, vous voyez, sur le cours en fait du Lez, donc qui est cette rivière en fait qui passe à l'est de Montpellier, donc que vous voyez, il promet en fait de canaliser cette rivière. On lui dit très bien, canalisez-la à vos frais, et en échange, tout autour de la rivière, on vous crée une seigneurie. Et donc cette seigneurie, vous la voyez, elle va de Montpellier à la mer et aux étangs. Et pourquoi ça intéresse mon sujet ? Ça intéresse mon sujet parce que vous avez quelqu'un en fait qui, en plein règne de Louis XIV, va se ramener et va commencer à dire « moi j'ai des droits, et notamment sur les ressources naturelles », et va en fait exhumer des droits seigneuriaux qui n'étaient plus valables et qui avaient disparu parce que le territoire avait été rattaché au domaine royal. Et donc notamment, évidemment, c'est cet acteur qui est un grand officier de la Cour des comptes et des finances, voit sa seigneurie créée dans le second XVIIe siècle et va tenter progressivement d'imposer de plus en plus ses droits sur son territoire de compétence. Et notamment, en fait, vous le voyez, il va commander un certain nombre de dénombrements. Et dans ces dénombrements qu'on trouve dans les archives seigneuriales, vous voyez par exemple, on trouve des listes de droits. Et parmi ces droits, des droits sur les ressources naturelles. Donc vous voyez, dans ce dénombrement de 1687, il revendique notamment des droits sur les étangs, sur les marais, les palus, les herbages, les pêches et la chasse. Donc en fait, toutes ces revendications vont être le début d'une grande conflictualité qui va se retrouver dans les archives seigneuriales, puisque le seigneur à la fois va faire des procès pour affirmer ses droits, mais également, par le biais de ses officiers, va prononcer un certain nombre d'ordonnances de police. Donc ça, en fait, j'ai beaucoup d'ordonnances de police. On connaît souvent, en fait, dans les archives seigneuriales, on connaît souvent les procédures de justice qui sont faites au nom des seigneurs. Mais en fait, vous avez tout un fonds qui sont des fonds policiers, où en fait, il y a des amendes, des ordonnances de police, etc. Et j'en ai beaucoup qui concernent, en fait, l'usage des ressources naturelles, alors notamment la pêche et la chasse, parce que, en fait, c'est ce qui préoccupe le plus le seigneur, la pêche et la chasse. Dans les procédures aussi judiciaires, vous allez avoir en fait un certain nombre de procédures qui vont concerner la justice qui est rendue au nom du Seigneur, qui vont concerner donc les ressources naturelles. Donc là, vous voyez, c'est un comptage que j'avais fait dans le cadre de mon master, en fait, de toutes les procédures criminelles qui sont faites au nom du Seigneur. Donc sur toute la période, en fait, les fonds documentaires, généralement, ils commencent dans le second XVIIe siècle. Avant, les pièces n'ont pas été conservées. Et on va jusqu'à la Révolution. Donc vous voyez, en fait, il y a 1567 procédures qui sont faites dans la seconde modernité, dans le cadre de cette juridiction seigneuriale. Et celles donc, que vous voyez en bleu, c'est toutes celles qui concernent en fait des ressources naturelles. Donc c'est une part minoritaire, mais c'est quand même une part assez importante. Et donc évidemment, on apprend beaucoup de choses. Alors pour finir sur les cadres de ces, sur ces structures seigneuriales qui concernent beaucoup les ressources naturelles, j'insisterai, je vous ai montré là une seigneurie laïque, sur le fait que vous avez beaucoup de seigneuries ecclésiastiques, notamment en fait sur ces territoires littoraux. Les seigneuries ecclésiastiques se taillent des grands domaines sur les territoires littoraux languedociens et aussi en Camargue. Et donc, par exemple, un des grands acteurs qui est présent sont les commanderies de l'ordre de Malte. Et donc l'ordre de Malte, parmi ces seigneurs qui tentent d'imposer leur structure sur la gestion des ressources naturelles, est omniprésent. Et donc là, vous voyez, je tire ces cartes, en fait, c'est assez intéressant. C'est donc la commanderie de Montpellier, au milieu du XVIIIe siècle, va se faire faire un atlas, en fait, de toutes ses propriétés, qui fait à peu près 150 pages, avec une cartographie très fine de ses propriétés. Et tout ce qui appartient à la seigneurie va être marqué, à l'ordre de Malte va être marqué, vous voyez, vous avez les croix de Malte. Donc là, à l'est, si vous regardez bien, vous avez des croix de Malte, en fait, sur les étangs. Et ça veut dire que toutes les ressources des étangs sont censées appartenir à l'ordre de Malte. La deuxième structure qui est centrale dans la définition de la propriété des usages des ressources naturelles, ce sont les structures communautaires, qui évidemment ne peuvent se comprendre que par rapport aux structures seigneuriales. Donc les structures communautaires, évidemment, on les retrouve dans tout le royaume de France, mais elles ont une forme tout à fait spécifique en Languedoc. Donc le Languedoc qui est sous l'Ancien Régime, un pays d'environ 1,5 million d'habitants, où vous allez trouver 3000 communautés d'habitants environ. Donc la communauté d'habitants, justement, elle naît plutôt à l'époque médiévale de cette concession de droit par le seigneur. Et en fait, on est passé à l'époque médiévale d'une communauté qui se définissait plutôt par des droits d'usage à un rouage clairement de l'administration fiscale sous l'Ancien Régime. La principale fonction de la communauté d'habitants sous l'Ancien Régime, c'est de se répartir l'assiette de la taille chaque année. Cependant, en fait, comme le souligne Élie Pellaquet, qui est un historien du Languedoc qui a beaucoup travaillé sur une communauté rhodanienne qui s'appelle Saint-Victor-de-la-Coste, pour lui, les communautés d'habitants de Languedoc, elles sont ce qu'il appelle la principale fonction de diversité du Languedoc. Et en fait, il dit ça parce que les communautés d'habitants vont avoir un grand pouvoir sur ce qu'elles appellent leur taillable, ce qu'on appellerait maintenant notre terroir, en termes de police, et elles vont pouvoir édicter un certain nombre d'ordonnances et qui vont concerner notamment en grande partie la question des ressources naturelles. Donc là, vous voyez un peu le maillage extrêmement important des 3000 communautés languedociennes. Ces communautés d'habitants, comme je vous le dis, elles ont donc principalement un but fiscal, mais elles ont un grand pouvoir de décision à côté du seigneur sur la gestion donc de leur taillable ou terroir. Et en fait, elles vont principalement évoquer toutes ces questions dans des registres de délibération, et elles sont extrêmement bavardes. Là, vous voyez, en fait, c'est une communauté qui est celle sur laquelle je travaille beaucoup, qui s'appelle Latte. Pour le seul XVIIIe siècle, vous avez 12 registres d'environ 300-400 folios à chaque fois. Et donc, elles vont raconter vraiment toute leur vie, alors qu'on est dans une communauté, en fait, qui fait 20-30 feux. Donc, pour vous dire, c'est vraiment une toute petite communauté. Donc, quand vous allez sur des communautés beaucoup plus grandes, vous allez avoir des fois 100 registres que pour le XVIIIe siècle. Donc, elles sont extrêmement bavardes, et elles vont définir, en fait, toutes les règles de police et d'usage des ressources naturelles, et donc c'est quelque chose qui va m'intéresser beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux travaux qui ont beaucoup été faits, notamment par Antoine Follin sur le village sous l'Ancien Régime, on a des points communs et on a des différences. Je les résume rapidement. Les points communs, ce sont les suivantes. Premier point commun, c'est qu'en droit, toutes les délibérations, toutes les décisions de la communauté d'habitants, elles se font sous l'autorité du juge seigneurial. Ça, on le retrouve partout. Enfin, c'est pareil que dans les travaux d'Antoine Follin. Donc la conséquence de ça, c'est que si vous avez un conflit, on va aller voir le juge seigneurial pour essayer de régler ce conflit. Le deuxième point commun, c'est que la participation aux délibérations des communautés d'habitants est réservée à ce qu'Antoine Follin appelle une minorité compétente. Et donc ça va être une sélection censitaire. Ceux qui vont participer aux délibérations dans ces registres, ça va simplement être les plus aisés, ce qu'on appelle la seigneur pars du village. Troisième point commun, c'est donc que les communautés d'habitants ont des prérogatives de police qui sont bien plus étendues dans le cas du Languedoc, mais qui existent ailleurs, puisque par exemple dans l'Anjou, sur les zones humides de la Loire, il y a eu une thèse d'Estelle Lemoine sous la direction d'Antoine Follin qui montre aussi qu'il y avait des prérogatives de police. Quelles sont donc les différences avec les villages qui sont plus septentrionaux ? Vous avez donc une production documentaire qui est beaucoup plus importante. On a une culture de l'écrit beaucoup plus forte. Culture de l'écrit, pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous ai mis ici quelques extraits qui montrent qu'en fait, ces registres, ils ont une valeur juridique. C'est-à-dire qu'ensuite, vous pouvez les retrouver devant les juridictions, même royales. Et en fait, par exemple, là, vous voyez, c'est quelque chose qui avait été rédigé, qui finalement ne va pas être signé par les membres du village. On renverse de langue dessus pour bien être sûr que cet acte ne va pas être utilisé d'une façon falsifiée. Une autre preuve, parmi des centaines, hein, mais de la valeur juridique de ça, c'est qu'ici, vous voyez, on va faire une annotation marginale, et pour bien montrer que l'annotation marginale n'a pas été ajoutée, on re-signe, en fait, l'annotation marginale. Et donc ça, en fait, c'est vraiment systématique. Tous les actes qui sont consignés dans ces registres ont des valeurs de droit. Et donc, troisième différence importante, c'est que les communautés d'habitants du Languedoc, elles ont des biens plus étendus, à la fois matériels et en termes de droit. Et donc, vous avez par exemple assez régulièrement les intendances ou les états de province qui font des enquêtes sur les droits des communautés. Et vous avez des listes très importantes de tous les droits qu'ont les communautés d'habitants. Donc là, je vous en ai mis un parmi d'autres, Pérol, une communauté donc, de mon littoral. Et vous avez la liste, donc dans une longue liste ici, par exemple, le fait que la communauté elle a un droit sur la dépaissance sur certains herbages. J'accélère. Troisième structure qui m'intéresse beaucoup, c'est une structure qui a peu été étudiée, qui sont les syndicats de propriétaires ou associations de propriétaires, et qui, en fait, de façon dans le cadre des communautés, vont encore avoir en fait des compétences qui vont agir à côté des communautés et à l'intérieur des seigneuries. Donc en fait, on est clairement dans le cadre de corps d'Ancien Régime. Ce sont des propriétaires qui s'associent pour en fait définir certains usages, et notamment en termes de ressources naturelles. Et donc en fait, moi, les principaux propriétaires que j'ai, vous avez deux types. Vous avez des associations de propriétaires de salines, mais vous avez aussi des associations de propriétaires de prés irrigués. Et en fait, les propriétaires s'associent, créent un corps qui se manifeste par l'existence d'un fonds d'archives distinct. Donc vous avez les registres à côté des registres de la communauté du corps des propriétaires. Et donc gèrent leurs affaires en levant parfois des impôts au titre de la société de propriétaires, etc., etc. Donc mon principal corps de propriétaires auquel j'ai affaire, ce sont des propriétaires de prés irrigués. Puisqu'en fait, avec ces eaux qui sont un peu partout, vous avez des systèmes de canaux et on dérive les eaux pour faire des fourrages en fait salés qui sont très prisés parce que vous avez en fait des prés qui peuvent produire donc deux herbes dans l'année et ce sont des herbes très prisées pour l'élevage. Donc comme je vous le montrais, en fait, ces corps de propriétaires qui sont assez peu connus, ils conduisent à la production de registres distincts. Où c'est assez intéressant parce que vous avez parfois en fait les gens qui sont dans le conseil de la communauté qui à côté vont faire le conseil des propriétaires et c'est très bien distingué, c'est-à-dire on mélange jamais les archives, etc., etc. Ces corps, on peut les trouver un peu ailleurs. Ils ont un peu été évoqués par Jean-Michel de Rex pour l'Abri, par Thierry Ruff dans un article d'Histoire et Société Rurale. On en trouve beaucoup dans le Roussillon et également en fait dans un article un peu synthétique récent de Raphaël Moreira dont je vous ai mis ici la référence. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une vraie problématique environnementale, c'est que les zones humides, Jean-Michel de Rex va parler en fait de solidarité obligée. Il explique que comme les milieux humides sont compliqués à gérer, parce que par exemple, si vous inondez votre champ, vous pouvez inonder le champ du voisin, etc., etc., vous êtes contraint à la solidarité en raison des problématiques environnementales. C'est-à-dire, vu que vous avez des cascades environnementales, c'est-à-dire ce que vous faites dans votre champ a des conséquences sur le champ du voisin, vous êtes obligé de vous associer en syndic, en association de propriétaires pour pouvoir gérer. Et c'est exactement le même cas dans les salines. C'est-à-dire, même si vous avez une parcelle de salines, vous êtes obligé de la gérer avec ceux qui ont les parcelles à côté pour avoir une gestion rationnelle. Je pèse vite, mais... oui, donc juste cet extrait qui est assez intéressant parce qu'il montre en fait les tensions qu'il peut y avoir entre les différentes institutions qui gèrent les ressources naturelles dans mon cadre d'études. Là, par exemple, en fait, c'est justement dans le cadre de l'ATT. Vous avez à un moment une délibération en fait consulaire, donc au nom de la communauté de l'ATT, et vous avez un conflit parce que vous avez le représentant des syndics de propriétaires, il arrive et il dit « vous avez nos archives ». Et donc en fait vous avez un conflit pour savoir est-ce que les archives elles appartiennent à la communauté ou est-ce qu'elles elles appartiennent au syndic de propriétaires, ou est-ce qu'elles appartiennent aux deux. Je lis, c'est assez intéressant. Donc Monsieur Farjon, premier consul, a dit que Monsieur Marguerite, écuyer et syndic de messieurs les propriétaires des prés qui s'arrosent, lui a remis un mémoire par lequel il prétend que dans les archives de la communauté, il y a plusieurs titres et papiers appartenant à la dite société, lesquels il désirerait retirer pour les mettre dans les archives de la dite société. Qu'il y en avait même qui sont communs entre la dite société et la communauté, desquels il demande qu'il lui soit permis d'en faire des expéditions. Ce qu'entendu par Monsieur le Président de Saint-Martial, syndic de messieurs les propriétaires des prés, a formé la même demande pour les 10 sieurs propriétaires dans le cas où il fut trouvé des titres et papiers leur appartenant. Donc vous avez vraiment aussi une question d'histoire des institutions, à savoir... qui fait quoi en matière de gestion des ressources naturelles. Derniers acteurs importants en fait, dans la gestion des ressources naturelles sur ce littoral languedocien sont plutôt en fait, des juridictions d'exception royales, à savoir les amirautés et les eaux et forêts. Et on va voir que leurs prérogatives se recoupent très largement. Je pèse vite, mais donc les amirautés, évidemment, c'est un cadre de juridiction qui est renforcé par l'ordonnance... de la mer, l'ordonnance maritime de 1661 dont je vous avais parlé. Et en fait, elles ont pouvoir théoriquement sur les affaires de la mer et les questions littorales et les questions portuaires. Donc théoriquement, elles ont plutôt des compétences qui concernent les ports, la pêche au large, etc. Mais en réalité, en fait, elles revendiquent aussi des compétences sur toutes ces zones lagunaires parce qu'elles estiment que ça appartient en fait au domaine maritime. Et donc, vous avez en fait les amirautés comme ça qui vont s'intéresser à des problématiques qui pourraient apparaître comme rurales, alors que généralement l'amirauté intéresse plutôt l'histoire maritime. Deuxième institution, deuxième juridiction d'exception, qui en fait va revendiquer des compétences sur ces territoires, et notamment sur les ressources naturelles, ce sont les eaux et forêts. Et justement, il y a beaucoup de conflits entre les amirautés et les eaux et forêts pour savoir est-ce que ça relève des eaux et forêts ou est-ce que ça relève des amirautés. Donc je vous montre ici le cadre en fait des amirautés. Donc sur mon territoire d'études, sans rentrer dans le détail, la structuration des eaux et forêts, mais vous avez des grandes maîtrises. Donc moi, c'est la grande maîtrise de Toulouse. Et ensuite, vous avez des maîtrises particulières dont vous avez ici les cadres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les eaux et forêts ont été beaucoup étudiées pour le second terme, c'est-à-dire sur la question des forêts, sur les ressources forestières. Depuis les travaux de Michel Devez, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait « Une admirable réforme administrative », la grande réforme des forêts sous Colbert, en 1962. Vous avez eu ensuite les travaux d'André Corvol, « L'homme et l'arbre sous l'Ancien Régime », plus récemment une thèse de Sébastien Poublanc, « Compter les arbres, une histoire des forêts méridionales à l'époque moderne », ou encore Philippe Crémieux-Alcan, « Solidarité, résistance et mentalité à travers les délits forestiers en Guyenne au XVIIIe siècle ». Mais en fait, on s'est peu intéressé au fait que les eaux et forêts géraient aussi la question des eaux, et donc toutes les ressources naturelles liées aux eaux, notamment aux eaux courantes et aux eaux stagnantes. Et je signale, parce qu'il y a un article récent dans Histoire et Société Rurale, le numéro 51-2019, « Heure et malheur de Jean Lajoni, garde des eaux et forêts de Cadillac au XVIIIe siècle ». Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans son quotidien que oui, il gère des délits forestiers, mais il gère aussi des délits de pêche. Et donc, c'est assez intéressant, même si ça semble minoritaire. Cela étant dit, quand vous prenez la maîtrise particulière des eaux et forêts de Montpellier, qui concerne notamment cette espèce lagunaire, le problème, c'est que chez nous, en Bas-Languedoc, vous n'avez pas de forêt. Donc, en fait, que vont faire les eaux et forêts ? Elles vont surtout s'intéresser aux questions de pêche dans les étangs et aux questions, en fait, des eaux stagnantes. Et donc, vous voyez ici, sur 63, en fait, procédures de réformation des eaux et forêts qui ont lieu, donc, à partir de l'ordonnance des eaux et forêts de Louis XIVe, et, vous avez, en fait, 50% dans le cadre de cette maîtrise particulière qui concerne plutôt les délits liés, en fait, aux eaux. Donc, ce qui est un cadre assez contre-intuitif. Maintenant que je vous ai montré, en fait, tous ces acteurs producteurs, ces institutions producteurs d'archives, l'idée, c'est, en fait, de m'intéresser à comment tous ces acteurs, par leurs pratiques administratives, institutionnelles propres, par leurs compétences, vont, en fait, réguler et déterminer l'usage des ressources naturelles en entrant parfois en conflit, en entrant parfois en complémentarité, en parfois collaborant. Et donc, dans cette seconde partie, en allant vite, je vais vous prendre trois études de cas qui permettent, en fait, de poser cette question simple, qui fait quoi en termes de ressources naturelles. Donc, le premier cas, c'est le cas, en fait, des pâturages, et notamment, en fait, de ces pâturages des marais, donc ces prairies, en fait, d'herbes salées qui sont extrêmement prisées dans le cadre de l'élevage littoral. Donc, si je reprends le cas de Latte, qui est une commune qui avait intéressé pour une partie de ses archives Emmanuel Leroy-Ladurie. C'est une commune, donc, je vous avais montré la carte, qui est au sud de Montpellier, dans un delta, le delta du Lez, un delta extrêmement humide, et donc qui comprend des parties de marais et des parties d'étang. C'est une commune qui est très influencée, comme l'avait montré Emmanuel Ladurie, par, en fait, la propriété urbaine, puisque, en fait, il y a ce qu'il appelle une éviction, si vous voulez, des paysans par les propriétaires urbains. C'est ce qui se voit notamment dans les diagrammes à colonnes à côté. Donc, c'est-à-dire, lui, en fait, il prend les archives fiscales et il évolue la répartition de la propriété. Et donc, il montre bien que un petit groupe paysan au XVIe siècle finit par être évincé, en fait, par des grands propriétaires bourgeois et nobles au XVIIe et XVIIIe siècle. Ce qui m'intéresse plus de mon côté, c'est le fait que si vous regardez les répartitions par type de culture, vous avez tout d'abord une extension, en fait, des zones cultivées et, en fait, des zones utiles au cours du temps, en fait, qui se fait notamment par le biais de dessèchement de marais et par le biais, donc, d'un gain, en fait, sur de labour sur les marais et les étangs. Donc voilà, ici, un peu, en fait... Une carte tirée toujours de l'Atlas de la Grande Commanderie qui montre en fait ce cadre de très grande propriété que mettait en avant Emmanuel Leroy-Ladurie, qui en fait a une structure avec vous avez une éviction donc de la paysannerie et vous avez en fait des très grands corps de ferme qui ensuite vont gérer des grands labours, des vignes et aussi des zones de prairies humides. Donc on n'est pas, faut pas avoir une vision enchanteresse. Quand je lis mes registres de délibération communautaire, je suis pas dans une histoire de la petite paysannerie. Je suis dans une histoire vraiment d'élite sociale qui gère des questions foncières. Donc, en termes de dépaissance, a priori, c'est plutôt la communauté d'habitants dont je vous parlais qui, en fait, régule l'accès aux ressources naturelles. Puisque, par exemple, en fait, si vous regardez les articles, pardon, j'en perds mes mots, les règlements communautaires, vous avez 6 articles sur 12 à l'AT qui concernent la question des dépaissances et la question donc de l'accès aux pâtures. Alors on retrouve des choses qui se trouvent ailleurs. Donc si je résume rapidement, donc, par exemple, vous avez l'article 1 qui règle l'ouverture en fait des prairies communales et donc qui ne les ouvre qu'entre mai et février avec la volonté de les laisser en vert entre février, mars, avril en dehors du bétail de labourage. Vous avez l'article 2 qui interdit le bétail forain. L'article 3 qui, en dehors du bétail aratoire, interdit les chevaux, les vaches ou encore les mules, etc., etc. Grosso modo, on retrouve des choses assez classiques qui avaient été formulées par Jean-Marc Morisseau dans ses ouvrages sur l'élevage, qui est que l'accès en fait, aux communaux, il se fait à proportion de son compoids, donc en fonction sa richesse foncière. Et donc la capacité contributive, je cite, est déterminée par la richesse cadastrale de chacun. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez donc là, ici, un usage qui est un accès réglé de manière censitaire. Donc on est plutôt dans la configuration d'un commun au sens économique du terme, tel que l'évoque l'économiste Einar Ostrom, donc des biens qui sont gérés de manière communautaire, etc. Là où c'est intéressant dans l'articulation de mes acteurs, c'est que dès que je vais avoir un conflit dans la régulation communautaire de l'accès à ça, on va aller voir qui, le juge seigneurial, et il va y avoir donc une procédure judiciaire. Cette régulation de l'accès communautaire, aux prairies communes et aux servitudes collectives, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va accorder une grande place au registre, parce qu'en fait, tout le débat, au sein de la communauté va savoir qu'est-ce qui relève du bétail du village et qu'est-ce qui relève du bétail forain, c'est-à-dire extérieur, qui théoriquement n'a pas le droit d'être là. Et donc vous avez en fait différents systèmes au cours du temps que j'essaie d'étudier qui se mettent en place. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous rentrez dans les registres de délibération communautaire et que vous les lisez intégralement, vous voyez que le régime en fait de régulation de l'accès aux pâtures n'est pas du tout stable. Et on tâtonne, on cherche en permanence des règles qui pourraient bien fonctionner. Et il n'y a aucune stabilité vraiment au XVIIe, XVIIIe siècle. On change en permanence. Et par exemple, là, je vous mets un exemple. Dans les années 1750-1760, on instaure une règle, on dit, bon, maintenant, pour que votre bétail de trait, votre bétail aratoire ne soit pas considéré comme forain, il faut que vous veniez le déclarer d'abord devant le greffe communautaire et que vous l'inscriviez dans le registre. Et donc, là, pendant 20 ans, vous avez les gens qui vont venir déclarer chaque cheval de trait, chaque bœuf de trait, etc., qu'ils vont avoir pour éviter leur saisie par la communauté. Il y a donc en fait des débats permanents pour savoir est-ce que le bétail qui broute sur le terroir de la communauté est forain ou pas. Et donc en fait, vous avez des procédures qui commencent dans les registres des délibérations, qui se poursuivent devant les juridictions seigneuriales et qui peuvent parfois aller jusque devant les juridictions royales, qui sont sans fin, qui vont aussi tenter d'exclure. Ici, par exemple, c'est assez intéressant parce qu'il va y avoir notamment beaucoup de défenses qui vont être réitérées contre les femmes. Et en fait, ça, c'est assez intéressant parce que c'est aussi une question d'histoire du genre et d'histoire sociale. Vu qu'on n'est pas très loin d'une ville, vous avez en fait du petit bétail qui appartient à des femmes urbaines et qu'elles tentent de faire venir dans leur communauté. Et donc, en permanence, les consuls de la communauté tentent d'interdire l'accès à ces ressources communautaires, à ces femmes qui amènent leur maigre bétail sur les pâtures communales. Donc là, vous en avez un exemple. Donc, De Plantade, premier consul, a été proposé qu'il est venu à ses connaissances qu'au commencement du mois de mai de chaque année, il s'introduit dans les prairies et palus de la communauté une grande quantité de bétail étranger, que dans la saison des fourrages, les femmes de la ville et faubourgs de Montpellier et autres lieux circonvoisins, de nuit et de jour, viennent découper et emporter les 10 fourrages des races du terroir, même du foin dans les prairies, ce qui cause un dommage direct considérable aux habitants qui ont seuls le droit de couper et faire manger les 10 races par leurs bestiaux. Donc un débat permanent pour savoir si une tête de bétail ou pas est foraine ou pas. De manière assez tardive, c'est assez intéressant parce que dans les années 1770, il va y avoir une procédure en fait de marquage du bétail. Et donc, on va faire forger une pièce en fait pour marquer le bétail sous le sceau de la communauté et pour en fait essayer vraiment de réguler de manière policière l'accès aux pâtures communes. Et donc, il y a vraiment beaucoup de tentatives comme ça qui sont faites. Ce qui est intéressant, c'est que le bétail forain n'est pas celui de gens extérieurs à la communauté. C'est-à-dire, si vous faites venir du bétail qui est censé être celui que vous avez sur d'autres communautés, ce bétail va aussi être réputé forain, même si vous êtes propriétaire dans la communauté. Et vous avez notamment beaucoup en fait, de débats avec des jésuites. Donc le Collège des jésuites de Montpellier, qui est un des grands propriétaires de ma communauté, qui en permanence en fait, a plus de têtes de bétail que ce que les règlements communautaires lui autorisent. Et donc les consuls de la communauté vont sans arrêt faire pignorer, donc en fait saisir, les vaches des jésuites. Là encore, c'est intéressant parce qu'en fait, la pignoration, qui est donc une gestion policière, une saisie policière par la communauté, il y a une gestion extrêmement variable. Et vous avez par exemple des accords avec en fait des aubergistes de Montpellier pour héberger en fait les vaches qui ont été saisies par la communauté. Et vous avez des négociations, des détails de négociations, par exemple, combien ça coûte pour garder une vache en prison chez un aubergiste pendant tant de temps, etc., etc. Et donc vraiment, là encore, même dans la saisie, si vous voulez, l'emprisonnement du bétail qui a été saisi, vous avez beaucoup de tâtonnements. Donc là, je peux lire juste le début parce que c'est assez intéressant. C'est donc les jésuites qui ont un économe en fait, qui gère ces grosses propriétés dans cette communauté, sont accusés tout le temps d'avoir du bétail forain, donc du bétail en trop par rapport à ce qu'on les autorise. Et donc là, vous avez en fait l'économe jésuite qui va mordre carrément le greffier de la communauté qui tente de saisir ses vaches. Donc par le disseur Fargeon consul, a été proposé qu'en conséquence de la délibération d'un an, le disseur Ricard, greffier consulaire, donc greffier de la communauté, ayant fait pignorer deux vaches de 14 qu'en ont les jésuites, donc il fait saisir deux vaches sur 14 parce qu'ils ont trop de vaches, le frère économe de la métairie d'Ancivade appartenant aux 10 jésuites s'opposa à la saisie des dites vaches, fit rébellion à la justice, et après avoir menacé un des huissiers et mordu l'autre tant au pouce, il leur enleva de force une des dites vaches, que l'autre fut conduite à Montpellier et conduite chez François Mallet, etc., etc. Donc là, en fait, ça, c'est une procédure qui va durer 20 ans et qui va finir au Parlement de Toulouse. Donc là, rien que pour ça, vous avez deux cartons sur cette procédure assez intéressante. L'autre conflit autour de la dépaissance, ça ne va pas être le conflit entre bétail de la communauté et bétail forain, ça va être plutôt un conflit autour de l'individualisme agraire. Et donc là, ça concerne plutôt ce qu'on appelle donc les servitudes collectives. Donc l'individualisme agraire, c'est une notion justement qui a été utilisée par Marc Bloch pour dire qu'au XVIIIe siècle, il y avait une montée de plus en plus d'une forme d'individualisme qui remettait en cause la gestion communautaire des ressources naturelles et notamment des droits de pâture. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, quand on rentre dans le détail, on peut un peu nuancer tout en s'appuyant sur les thèses de Marc Bloch, puisqu'en fait, il y a une longue durée aussi de cet individualisme agraire, notamment chez les très grands propriétaires, notamment ecclésiastiques. Par exemple, ces jésuites dont je vous parlais, dès le Moyen-Âge, ils tentent en fait de faire enclore leurs propriétés, et notamment leurs marais, pour interdire ce qui s'appelle la dépaissance commune, donc ce qui s'appellerait ailleurs la vaine pâture. Donc l'idée, c'est qu'ils disent, nous, on ne veut pas participer à votre gestion communautaire des pâtures, on ne veut pas du tout emmener brouter nos bêtes chez les autres. Par contre, on aimerait bien clôturer nos propriétés. Et donc, en permanence, ils tentent de faire clôturer leurs propriétés. Et en fait, l'État, les évolutions libérales de l'État, convaincues par les pensées physiocratiques, vont aller dans leur sens, puisqu'en 1766, les États de Languedoc vont permettre en fait la clôture des grandes propriétés foncières et la remise en cause des droits de dépossession communautaire. Et donc là, vous allez avoir de longs procès pour savoir est-ce qu'on a le droit de faire ça. Deuxième ressource qui est un exemple, ce sont en fait ce qu'on peut appeler la cueillette du pauvre, donc ce sont les joncs et les roseaux que l'on trouve notamment dans les marais. Donc là encore, dans les règlements de la communauté, vous avez l'article 7 qui se focalise sur cette cueillette du pauvre et qui tente de l'interdire. Donc vous n'avez pas le droit, selon les règlements communautaires, de venir cueillir quoi que ce soit dans le terroir de la communauté. Donc les 10 consuls ni habitants ne pourront donner aucun billet à personne pour faire des herbes, cassaudes, ni vinasses au dit terroir. Et en cas il en serait donné, les gardes n'y auront aucun égard. Il est défendu à toute personne sans exception de couper et enlever des joncs, cassaudes, vinasses, mousses, ni autres sortes d'herbes sans la permission par écrit de monsieur le premier consul. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment en fait la prohibition de la cueillette du pauvre. Tous les termes sont difficiles à trouver parce que sont des termes en fait qui sont attestés qu'à échelle locale et qui se trouvent dans aucun dictionnaire. Donc j'ai tenté d'identifier un ou deux. Donc notamment on me parle de vinasse et donc j'ai trouvé notamment dans le dictionnaire en fait de franco-provençal de Frédéric Mistral une version assez convaincante, donc ça viendrait de Vicenno, donc qui désignerait en fait la clématite. Et donc en fait, c'est une plante un peu des marais qui servait en fait à faire des liens, des cordages, si vous voulez, des sortes de... Oui, des cordages servant à différentes fonctions rurales. Donc on est vraiment en fait dans la volonté de couper le terroir aux catégories sociales populaires. Là encore, il y a des procédures judiciaires qui sont portées devant les juridictions seigneuriales. Et donc, en fait, ça concerne souvent plutôt des femmes, des faubourgs montpelliérains, etc., etc. L'interdiction porte aussi, en fait, sur la coupe des joncs et des roseaux, qui sont loin d'être une ressource secondaire, parce que notamment, en fait, les roseaux servent à faire les toitures, en fait. C'est l'équivalent de la chaume, si vous voulez, plus septentrionale. Et donc, l'accès aux joncs, en fait, va être un... et aux roseaux va être un enjeu assez crucial, en fait, sur tout ce littoral languedocien. Je vous ai mis une photo. Le roseau, c'est principalement ce qu'on appelle la canne de Provence, donc c'est une sorte de roseau qui peut atteindre 3-4 mètres de hauteur. Donc, et le jonc, quant à lui, va plutôt servir à faire tout ce qui est panier, toutes sortes d'instruments de ce genre. On fait aussi des instruments de pêche, etc. Et là encore, en fait, dans la gestion de ça, ça va être comme pour les pâtures. Vous allez avoir un grand tâtonnement des communautés et des juridictions seigneuriales, puisque dans un premier temps, en fait, pour schématiser, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, la coupe des joncs est réservée donc aux habitants de la communauté, mais sans réglementation particulière. De plus en plus, au milieu du XVIIIe, il va y avoir d'énormes débats, parce qu'on va estimer que, en fait, c'est très mal régulé, qu'il y a trop de gens extérieurs qui viennent ramasser des joncs et des roseaux dans le terroir de la communauté. Et en fait, on va mettre un système d'affermage en place, assez complexe, qui va se chercher pendant plusieurs décennies. Et finalement, c'est très compliqué, mais on va finir par mettre en place un système en fait, d'appel d'offres, donc classique. Donc, va se proposer un fermier. Et ensuite, il va y avoir un système en fait, de délibération aux habitants de bons, et donc de bons et de contre-bons, avec chacun qui aura une quantité à un prix minimal. Et c'est intéressant en fait, de voir à la fois les parallèles qu'il peut y avoir avec les dépeçances. Dernier cas que j'étudie, et je conclurai pour aller vite, c'est la question des ressources halieutiques et la question des cabanes de pêcheurs. Donc, sur les ressources halieutiques, les eaux et forêts et les amirautés vont être des acteurs beaucoup plus prépondérants dans les conflits que les justices seigneuriales. Et il va y avoir énormément de procédures donc, portées par le pouvoir royal, puisque les pouvoirs royaux s'intéressent beaucoup aux ressources halieutiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez suivre toute la chaîne en fait, de prélèvement des ressources halieutiques. Notamment, la communauté en fait, va gérer l'implantation, par exemple, de cabanes de pêcheurs, qui sont des lieux de stockage du matériel des pêcheurs. Donc, on les voit beaucoup, en fait, elles sont cartographiées. Donc, vous les voyez, par exemple, cartographiées sur la carte de Cassini. Hein, vous voyez là, au niveau de l'estuaire, vraiment du Lez, cabanes de pêcheurs. On les retrouve à une échelle plus fine ici. Et donc, en fait, les étangs, les eaux vont être une propriété seigneuriale qui va être affermée à des pêcheurs qui s'appellent poissonniers, qui sont en fait souvent des gens qui approvisionnent les villes, que ce soit Narbonne, Montpellier ou Béziers. Et ces pêcheurs vont en fait affermer autre chose, c'est la possibilité de construire des cabanes dans les zones de marais, au bord de ces étangs. Et ça, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que si l'affermage de la ressource en poisson est géré par la seigneurie, l'autorisation de construire une cabane pour stocker son matériel et pour centraliser le poisson va lui être gérée par la communauté. Et donc, c'est là que c'est intéressant de voir en fait comment chaque acteur a des droits sur des droits différenciés sur des processus d'approvisionnement. Soit dit en passant, si vous m'avez bien suivi, ces cabanes de pêcheurs ont des toits de joncs et sont souvent faites de roseaux. Donc en fait, les pêcheurs, par intérêt, vont affermer en fait les roseaux et les joncs pour pouvoir ensuite construire leur cabane. Et donc, vous allez aussi en fait voir comment chaque gestion, chaque gouvernement de ressources naturelles peut fonctionner en réseau. Pour conclure, mon étude elle vise donc à prendre au sérieux, en fait, par les pratiques sociales, la diversité des acteurs qui pouvaient déterminer et réguler les usages et les formes de définition des ressources naturelles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de prendre vraiment en réseau tous ces différents acteurs et de voir qui fait quoi. L'autre intérêt, c'est d'étudier les ressources naturelles au pluriel pour montrer qu'en fait, vous avez à la fois des spécificités pour chaque ressource, mais également des procédures qui vont ressortir, comme les modes d'affermage, les modes de délivrance de quittances et de bons. Vous pouvez donc suivre en fait les différents tâtonnements institutionnels pour réguler les usages et tenter de les comprendre. L'intérêt, il est renforcé par en fait, l'étude de ce territoire spécifique, qui est un territoire à mi-chemin donc, des eaux et du rural, dans la mesure où il y a une diversité des ressources exploitées, une complexité et un enchevêtrement des acteurs, et une complexité donc, des cadres d'appropriation socio-juridique. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire de ce territoire, comme le montre un peu cet éloge de la micro-histoire ou de la monographie, un laboratoire pour étudier les formes de la propriété. Et donc j'aimerais bien pouvoir faire un pont avec David, j'aimerais bien pouvoir ensuite prendre au sérieux la césure révolutionnaire et le premier 19e siècle pour voir que deviennent tous ces jeux d'acteurs et ces jeux institutionnels lorsqu'on dépasse la Révolution française. Voilà, merci, je vous remercie. Et désolé d'avoir été long.